Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir. Aussitôt élu, le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, a choisi la destination Togo pour sa visite. Il a été reçu ce mercredi par le chef de l'État togolais, Fonia Singbe. Cette visite internationale du futur leader ghanéen était l'une des toutes premières depuis son élection le 7 décembre dernier. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets clés, parmi lesquels la coopération entre les deux pays frères et les perspectives de renforcement des relations de partenariat entre Lomé et Accra, unis par des liens historiques. Les peuples togolais et ghanéens vivent en effet en bonne harmonie dans un climat de bon voisinage. Les deux chefs d'État ont en outre fait un tour d'horizon de la situation politique, économique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine, ainsi que les questions de développement sur le continent et dans le monde. John Dramani Mahama prêtera serment le 7 janvier prochain au cours d'une cérémonie solennelle d'investiture. Qu'est-ce qui motive une telle visite du chef de l'État ghanéen au Togo? Je poserai la question à mes invités. Nous sommes au vendredi 20 décembre 2024. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Merci de nous recevoir sur La Nouvelle Génération. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Guitomega assure la mise en onde. Jérôme Dakoutsa est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, là nous sommes à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes déjà présents, c'est Thierry Afanoukoué. Thierry, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Ah, je rends grâce à Dieu et merci infiniment pour l'invitation.
Et la semaine, comment ça s'est passé? Puisque nous sommes pratiquement en fin de semaine.
Oui, de plus en plus difficile. Hein. Vous savez aussi que les fêtes s'approchent et vraiment on est inquiet parce que nous avons les poches vides. On se demande ce qui adviendra, mais bon, on espère que jusque-là, le Seigneur fera quelque chose.
D'accord, on espère justement que le Seigneur fera quelque chose jusque-là. Alors, Gabin, j'espère que vous êtes aussi dans cette espérance. Bonjour.
Ah oui, bonjour Pascal, bonjour à Thierry, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la meilleure radio Canal FM. On est toujours dans l'espérance, hein. C'est l'espérance ne tue pas. Tant qu'on est là, on doit espérer. Et il reste encore quelques jours pour les fêtes. On espère toujours que quelque chose se fasse de la part du Seigneur, que le Seigneur envoie quelqu'un pour nous sauver de cette situation.
Merci, vous le dites.
Ah oui, parce que là, vraiment, à la maison, la liste gonfle, mais il n'y a rien qui rentre dans les poches. Peut-être que d'ici là, les choses vont s'améliorer.
Justement, j'aimerais qu'on débute cette émission avec cette question de vie chère. Et Thierry, c'est vrai, on est à pratiquement la fin, enfin pratiquement quelques jours, 10, 11 jours de la fin d'année, et, ou de la nouvelle année, j'allais dire, mais il y a cette morosité économique hein, qu'on constate toujours. Hein, quand vous quittez, vous sillonnez dans la ville, l'ambiance de fin d'année, on ne la retrouve pas.
Ah oui, Lomé ou du moins le Togo a perdu il y a des années maintenant l'ambiance des fêtes de fin d'année. Peut-être c'est la veille et le jour J de la fête qu'on retrouve un peu cette ambiance-là parce que le traitement salarial ou encore le traitement salarial des Togolais ne leur permettent plus de faire face aux besoins quotidiens. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on a revu à la baisse le prix des produits pétroliers et a suivi également quelques retouches par rapport au prix des transports. Le gouvernement, communiquant là-dessus, faisait savoir que il espère que cela aura des incidences sur le prix des produits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les choses continuent de grimper et on se demande ce qui va se passer. Et vous êtes là et les gens, leur salaire ne leur suffisent pas. C'est comme je lisais quelque part que en Côte d'Ivoire, le salaire des fonctionnaires est déjà positionné, mais encore reste à savoir si ce salaire-là ne va pas finir avec Noël. Et si ça finit avec Noël, comment on va fêter la fête de fin d'année? Donc voilà un peu la situation. C'est difficile. Les Togolais attendent que, en tout cas les salariés ou les fonctionnaires attendent à ce que le gouvernement puisse revoir leur traitement salarial. Ça traîne, ce n'est toujours pas le cas jusqu'à maintenant. C'est vrai que cette année, le gouvernement dit qu'il a fait des efforts, il a fait pas mal d'économies. Ça lui a permis, c'est pour cela d'ailleurs que en Conseil des ministres la fois dernière, il y a eu une loi de finances rectificative. Mais bon, les besoins sont énormes hein, parce que on pouvait redistribuer cet excédent-là, mais malheureusement, on est confronté à des défis sécuritaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au nord du pays, la sécurité n'est plus totale à cause des attaques terroristes. Donc, vous voyez, les besoins sont énormes, mais les poches sont vides. On se demande ce qui va se passer. Au même moment, c'est dans ces conditions-là que d'autres perdent leur boulot. Hein, vous voyez, c'est toujours difficile. C'est tout cela qui amène que à Lomé, ou du moins au Togo, il y a plus de motos en circulation parce que tout le monde ou presque ça donne aux aides, et alors que ce n'est pas forcément un métier que les gens ont choisi.
C'est pas forcément un métier que les gens ont choisi. Alors Gabriel, je sais que toi, tu aimes beaucoup circuler dans les marchés pour voir ce qui se passe exactement. Oui. Alors dans ces marchés. Quand on prend la situation aujourd'hui dans les marchés, est-ce que cette morosité économique n'atteigne pas aussi ces marchés?
Bien évidemment, quand l'atmosphère est morose, quand les situations ne vont pas bien, directement que ça répercute hein, sur les commerçants et commerçants. Et malheureusement, quand tu vas dans les marchés, quand tu vas au grand marché aujourd'hui, c'est vrai, il y a une certaine influence. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au marché, mais ils demandent des prix sans pour autant acheter. Ce qui fait que, bon, vous savez, les commerçants, c'est vrai, on dit souvent qu'ils ne sont jamais satisfaits, mais si tu fais bien le constat, tu t'arrêtes devant un étalage, ben, le nombre de personnes qui viennent demander les prix sans acheter sur 10, peut-être une seule personne peut acheter un produit, et quel produit d'ailleurs, et à quel taux. Donc, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Même dans la ville, ça se sent hein, que bon, véritablement, la fête ne dit plus rien aux Togolais. Les parents se disent aujourd'hui, c'est le pique-nique des enfants, on va leur faire quelque chose. Le jour de fête, on va leur trouver des robes et quelques habits, on va leur préparer du riz, et tant que les enfants sont contents, alors là c'est déjà bien. Donc le Togolais n'a plus véritablement la tête à la fête, ce qui fait que bon, déjà même dans les décorations, ça laisse à désirer. Peut-être dans certains carrefours, quand tu prends le carrefour de GTA, moi j'ai vu la décoration qui est là-bas, notre plus grand carrefour du Togo, ben à un moment donné il faut se poser les questions, sauf Colombe de la Paix qui a fait un peu peau neuve, sinon pratiquement tous les autres endroits, je me pose la question s'il y a véritablement un budget qui a été dégagé par la mairie pour les décorations, parce que quand tu parcours les communes, ça ne sent pas la fête. Même normalement dans cette période-là, les boutiques ils peintent leurs vitres, hein, et ils dessinent les Papa Noël et tout ça. On écoute des musiques de Noël et tout. Mais aujourd'hui, c'est par endroit que tu vas écouter ce genre de musique. On a l'impression que les parents même ont peur d'écouter ces musiques-là. Donc vraiment, la situation est très 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 morose. Et les mesures que devait prendre le gouvernement pour cette fin d'année afin de soulager un peu les Togolais, pour moi, ces mesures-là sont venues non seulement tardivement, mais sont très 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 minimes aussi. Quand on prend la réduction sur les prix,
vous pensez que c'est infime?
C'est très infime. C'est très infime quand on prend la réduction sur les prix de produits pétroliers, à peine 20 francs sur l'essence qu'on consomme beaucoup plus. 20 francs, ça ne fait rien à la bourse du Togolais. Quand on prend la réduction des prix sur l'huile, bon, c'est pratiquement rien du tout. Et le coût, hein, du sac de riz de 50 kilos qui est aujourd'hui à 20 500, combien de Togolais gagnent, hein, au-delà de 50 000 francs? Déjà, même le SMIC qui est à 52 500, beaucoup de personnes, beaucoup d'employeurs ne paient pas ça aux employés. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et la situation est tellement difficile que le Togolais lui-même, il est résilient de nature, ce qui fait qu'il ne dit absolument rien. Mais quand tu prends pratiquement dans chaque maison, quand tu prends les citoyens, quand tu vas dans les marchés, tu sens véritablement ça ne va pas, ça ne passe pas. La pilule est très 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 amère.
D'accord, la pilule est très amère. Oui, Thierry.
Oui, concernant la situation dans nos marchés, elle est de plus en plus inquiétante, en ce sens que les commerçants ne sont plus fréquents ou réguliers dans les marchés. Hein. Je donne juste cet exemple là. Cette semaine même, j'étais au grand marché de Lomé, j'avais commandé quelque chose et la personne m'a demandé de repasser pour prendre la chose. Je n'ai pas pu et le lendemain, je suis retourné au marché. Vous pouvez imaginer que jusqu'à 11 heures, la personne n'est pas là.
Et c'est quoi le problème?
Mais pour moi, le problème, c'est que si vraiment il y avait le marché comme eux-mêmes ils le disent, et vous ne pouvez pas passer des heures à la maison. Et quand j'insistais à savoir à quelle heure au juste il serait là, vous savez quelle réponse il m'a donné?
Non, c'est quoi?
Il m'a dit non, donc de repartir, que dès que lui il sera là, il va m'appeler. Donc, vous vous rendez compte que les gens, il n'y a plus cette motivation-là.
Justement, est-ce que ça veut dire que finalement, cette motivation n'existe plus?
Oui, c'est parce que les gens font leur étalage alors qu'il n'y a pas véritablement de clients. Ou encore, les gens viennent, mais ils ne sont pas à la hauteur de payer ce pourquoi ils sont là, parce que les prix sont en hausse. Donc, voilà la situation. Et tout ceci doit amener le gouvernement à réfléchir et repenser le traitement salarial, comme je l'ai dit, pour les fonctionnaires. Et encore, ceux qui sont dans le privé, comme mon cher ami l'a dit tantôt, c'est vrai, le SMIC a été revalorisé, sauf que dans la pratique, les gens jusqu'à aujourd'hui ne touchent pas ce SMIC-là. Moi, je connais des gens qui sont encore à 25 000 le mois, qui sont encore à 35 000 le mois, alors que une pièce à Lomé, c'est pas moins de 10 000. Ah oui. Et il y a l'électricité à payer, il y a l'eau à payer, il faut se déplacer chaque jour pour se rendre à son service. En plus de ça, il faut manger le matin, voire midi et voire le soir. Donc vous êtes obligé, si vous faites le calcul, si ça n'atteint pas, vous êtes obligé de manger peut-être qu'à midi et de jeûner pour le matin et le soir. Donc voilà malheureusement la situation. Du côté du gouvernement, on vous dira qu'on fait ce qu'on peut, mais ce qu'on peut là ou ce qu'on fait là, ne satisfait pas ou bien ne répond pas au quotidien des Togolais.
Ce n'est toujours pas suffisant.
Oui.
D'accord. Alors, nous sommes rejoints par Firmin Teko Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Sou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, je vais bien avec la grâce de Dieu, mais avec un petit pincement de cœur.
Oui, puisque ce n'est pas dans ton habitude d'être en retard, mais je l'ai constaté ce matin.
Ouais.
Et je ne sais pas trop si, justement, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être on le dira hors micro.
Oh, bien sûr, mais en écoutant Gabin Adjaro et Thierry Afanoukou, je me dis, où est-ce que nous sommes en train d'aller? C'est fondamental. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Regardez, je me demande si on pourrait s'en sortir avec cette situation. Le problème, c'est une question de ressources et puis c'est une question de vision et d'ambition. Moi, je me dis que l'année prochaine, Faure Gnassingbé va faire 20 ans au pouvoir. C'est grand. Il va falloir aujourd'hui qu'il mette sur sa table les grandes orientations, de grandes orientations pour faire décoller sérieusement ce pays. Parce qu'aujourd'hui, on a suivi un peu la présidence de la République a organisé un atelier la semaine passée pour parler un peu des recensements. Nous avons partagé quelques visuels. On voit, on a parlé de l'électricité. Ça va un peu. Bon, de 2005 à aujourd'hui, le pays a un peu évolué. Ça, on ne peut pas refuser ou se refuser de le reconnaître. Mais il faut de grandes orientations. Il faut de grandes orientations, sinon on ne pourrait pas s'en sortir. Il y a des domaines, vous savez, moi je suivais un reportage l'autre fois sur une chaîne internationale où aujourd'hui c'est l'hiver en Europe ou en Occident ou dans une partie du monde. Vous voyez par exemple l'hiver où la neige même est exploitée. Regardez, ce matin je suivais encore un autre reportage où on nous montrait des grottes où des gens y travaillaient. Juste dire en réalité, il faut que nos politiciens ou le président de la République arrivent à se dire quels sont les domaines qui sont délaissés, qui sont ignorés, mais qui peuvent être porteurs sur le plan économique. Parce que le problème, c'est une question de ressources. Parce qu'on n'a pas d'argent. Et lorsqu'on va avoir de grandes ambitions, on se dit maintenant, le fonctionnaire togolais, mais le minimum, peut-être le salaire le plus bas sera 500 000 francs. Ça, c'est un élément fondamental. C'est parce qu'on n'a pas de ressources. Il faut qu'on réfléchisse à quel secteur toucher fondamentalement. Sinon, en 2000, l'année prochaine, on va revivre la même chose. Parce qu'on va dire qu'on n'a pas d'argent. On va dire qu'on n'a que les impôts et la douane. Vous voulez quoi? Lorsqu'on arrivera à cibler les domaines porteurs, là, on pourrait créer de la richesse. Regardez par exemple, quand moi je critique un peu le budget, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Donc, le budget, il est social. Mais ce n'est pas créateur de richesse. Vous imaginez, c'est par exemple dans le budget, on dit, on a une somme importante pour soutenir les investisseurs ou pour amener les jeunes à créer de l'entreprise, à les suivre. Là, vous remettez peut-être de l'argent aux jeunes et ils vont créer de la richesse, emploi d'autres jeunes et une partie de cet argent va retourner au trésor public avec les impôts, les taxes et autres. Mais là, tant qu'on aura un budget purement ou pratiquement social, moi, je pense qu'on ne pourra jamais décoller. Parce que le problème, c'est une question de création de richesse. C'est-à-dire, vous êtes là, vous avez besoin d'argent. Chaque mois, je viens vous donner 10 000. Vous allez dépenser. Mais si je viens vous remettre 10 000, monsieur, créer de la richesse, c'est-à-dire créer un emploi ou créer 2-3 emplois.
Vous enseignez la manière de création même d'emploi aussi à ces gens-là.
Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire quand vous par exemple, vous dites vous n'avez pratiquement rien. Chaque mois, je vous donne 20 000. Mais je vais dire, mais parce qu'il faut que je vous accompagne. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire qui pourrait engendrer de la richesse? Vous dites, ok, je suis bon dans tel domaine, je vais investir dans tel domaine et ça vous permet peut-être d'embaucher 3, 4, 5, 10 personnes. C'est une manière de créer de l'emploi. Et ces personnes, vous allez les payer à la fin du mois. Parce que si on mettait un accent sur ça, dans le budget, moi, je pense que ça va être beaucoup plus important. Sinon, ce budget-là ne peut pas nous permettre de décoller sur le plan économique. Parce que on investit pas 45 ou 50% sur le social. Ça ne va pratiquement rien donner sur le plan. Ça ne va pas nous permettre de décoller. Alors, pour conclure, ce que moi, je voudrais dire, je veux parler de vie chère. La vie est typiquement chère. Mais les autorités vont vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Oui, on le leur concède. Mais il faut cibler les domaines qui peuvent être porteurs sur le plan économique. Il faut revoir le statut du budget ou le contenu du budget pour quitter le social. C'est-à-dire, on garde le social, bien sûr, mais on va chercher de l'argent pour aider les jeunes à créer de l'emploi. C'est-à-dire, les gens. Il y a des gens qui ouvrent les écoles, mais qui les ferment après. Il y a des gens qui ouvrent les entreprises, mais qui les ferment après. Mais l'autorité publique doit se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, moi, je dis chaque fois, quelque soit, je me balade un peu dans Agouet et dans d'autres quartiers. Vous allez voir, il y a des, ce que les jeunes filles aiment, souvent les hamburgers, tout ça. Il y a des, comment on les appelle?
Les Libanais.
Oui, il y a des Libanais. Il y a des Togolais même qui ouvrent de ces petits restaurants-là aujourd'hui. Mais, vous voyez, dans certaines soirées, ces boutiques ou ces petits restaurants sont vides. Parce qu'il n'y a personne, les gens n'ont pas assez de liquidité ou assez de moyens pour aller consommer. Alors l'autorité doit se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça au fait fondamental, qu'est-ce qui ne va pas? Trouver d'autres moyens pour amener les gens à travailler, pour amener les gens à avoir un pouvoir d'achat conséquent, et ça qui va permettre à l'économie de tourner. C'est-à-dire que l'autorité se dise, mais qui sont ceux-là qui ferment leur boutique? Qui sont ceux-là qui ferment leur restaurant? Qui sont ceux-là qui ferment leur magasin? Et qu'on en tienne compte dans le budget. Et puis qu'on cible ces gens-là, qu'on leur donne de l'argent. Vous savez, en Chine, on ne ferme pas les entreprises, hein, parce que vous n'avez pas payé d'impôts, hein, vous n'avez pas payé des taxes. Hein. Quand l'autorité publique se rend compte ou s'aperçoit que vous n'avez pas été au point sur le plan fiscal, on vous envoie par exemple un expert qui va vous aider, qui va venir échanger avec vous pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Et l'expert, pendant ce temps, l'expert va vous aider et jusqu'à ce que vous ne retrouviez votre statut d'avant. Et maintenant, on vous laisse et vous allez revenir sur le plan économique de la situation où vous étiez. Mais ici, quand vous avez des problèmes, on peut fermer. C'est dangereux que l'autorité se dise qu'est-ce qui ne va pas. Et on cherche de l'argent pour injecter dans l'économie. C'est à ce stade-là, on ne peut pas marcher.
D'accord. Oui, mais oui, Gabin.
Oui, vous savez, Fimed vient de toucher un point très, très, très important. Par rapport à la situation économique même du pays. C'est vrai qu'il y a une facilité à créer des emplois au Togo, mais la célérité avec laquelle
on ferme des entreprises.
Des entreprises, mais la célérité avec laquelle on les ferme, c'est inconcevable. Parce que les gens, ils sont acculés par les taxes, les impôts, ce qui fait que ces entreprises-là ne vivent pas. On peut dire que donc en 2024, il y a eu des centaines d'entreprises qui ont été créées, mais aujourd'hui, quand on consulte très bien, ces entreprises-là n'existent que de nom. Ils ont fermé boutique parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, à un moment donné, il faut faire la promotion de non seulement de la création, mais aussi de la viabilité des entreprises au Togo. Et notre fonction publique n'a que à peine 50 000 agents, hein. Ça ne suffit pas pour nourrir 8 millions, voire 9 millions de bouches.
Et ce qui est sûr, la fonction publique ne peut pas absorber.
Voilà, donc c'est pourquoi il faut promouvoir beaucoup plus le secteur informel. C'est très important. Sinon, si on n'arrive pas à promouvoir les entreprises privées, on aura faim. On aura vraiment faim. Ceux-là qui travaillent peut-être dans les petites boutiques, dans les petites entreprises, si l'entrepreneur n'arrive pas à avoir un peu de bénéfices, comment il peut arriver à payer ses employés? Il va les payer. Certes, il peut les payer, mais ça sera en dessous de ce qu'on lui demande, puisqu'il ne peut pas. Parce que quand on a revalorisé le SMIC, il y a certains employeurs qui ont dit, je ne peux pas. Si je veux réellement le faire, alors là, je suis obligé de diminuer du personnel et surexploiter ceux-là que j'ai. Donc, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et l'État doit faire énormément d'efforts pour soulager ce peuple-là. Parce que même au niveau des productions agricoles et tout, aujourd'hui, les gens se tournent beaucoup plus vers les produits de rente. On produit beaucoup plus le soja et autres là, plus que les produits que nous consommons ici. Ce qui fait qu'il y a une rareté sur le marché. Et ça devient beaucoup plus cher. Donc, le gouvernement doit beaucoup plus réfléchir, à apporter beaucoup plus de soutien aux entrepreneurs.
Oui, Thierry, le gouvernement, par rapport même à la situation que nous décrivons ici, et le gouvernement dira qu'il fait assez d'efforts. En témoignent peut-être alors les résultats du recensement. J'allais dire du dernier recensement général, alors général de la population et de l'habitat, et de la deuxième édition conclusions également de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages. Et d'après même d'ailleurs ces enquêtes ou les résultats donnés, on comprend que déjà par rapport surtout à l'accès à l'eau, il y a pratiquement 83% de la population d'après les chiffres, hein, et de la population qui a accès vraiment à l'eau. Et aussi en matière d'électricité, on parle même d'ailleurs en milieu urbain de 9 ménages sur 10, et également, enfin, en milieu urbain et en milieu rural, on parle plutôt alors de 5 ménages alors sur 10. Alors, et c'est des efforts, puisque les chiffres démontrent quand même cela.
Oui, les chiffres sont les chiffres, et c'est un travail qui a été fait et qui mérite d'ailleurs d'être félicité. Je crois que la fois dernière, des explications ont été données. Maintenant, quand vous prenez le volet électricité, allez-y voir dans quelles conditions les gens ont leur électricité ou ont le courant chez eux. Parce que une partie certainement de ces chiffres-là que vous venez de communiquer, dans ce lot-là, il y a des gens qui ont l'électricité grâce à des branchements araignées. Mais eux aussi, ils ont été comptabilisés. Je crois que il y a des programmes qui prennent en compte ce volet de l'électricité. Dans certains quartiers actuellement, il y a les poteaux électriques qui sont déployés, sauf que ils ne sont pas jusqu'à aujourd'hui connectés. On se demande ce qui se passe, et depuis que les poteaux ont été installés, pourquoi on ne connecte pas ces poteaux-là? C'est ça aussi la réalité chez nous. Vous savez, le Togolais a cette particularité-là. Chez nous, nous ne vivons pas. Nous ne, je ne sais pas.
On ne vivons pas. Qu'est-ce qu'on fait?
Non, attendez, je m'explique. Oui, on ne fait pas la vie. Si je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais par contre, vous prenez un Gabonais, le Gabonais qui a 100 000 ou 200 000 dans une seule nuit, en une seule nuit, il va tout dépenser. Vous prenez un Sénégalais qui a 200 000, 500 000, en une seule nuit, il va tout dépenser.
Mais est-ce
un Ivoirien,
oui, parce qu'il sait que ça reviendra.
Oui, c'est ça. Mais nous, les Togolais, même les petits 50 000 que nous avons, nous gérons ça plus d'une semaine. Nous gérons ça plus d'une semaine. Même à partir de ces 50 000-là, notre plus grand rêve, c'est d'avoir un petit lopin quelque part et de construire là-dessus. C'est ça le mental du Togolais. C'est ça qui fait que, bien que financièrement, nous ne sommes pas aisés, mais nous apparaissons comme des gens qui sont aisés. Donc c'est malheureusement ça. Au Bénin, par exemple, un Béninois qui a 100 000, au Bénin, les Béninois ont l'habitude de parler de millions, alors qu'en réalité ils n'ont pas 2 millions. Et les Togolais, c'est rare d'entendre un Togolais parler de millions. Dans le lot de l'eau, avec les chiffres que vous venez de communiquer, on a atteint ce résultat parce que ce n'est pas parce que mes amis de la TDE ont déployé davantage leur réseau. Non, c'est parce que chacun s'est pris sur lui de disposer d'un forage. Et à quel prix? Donc c'est la somme de tout ça là qui fait que à des niveaux où l'État est défaillant, où l'État n'existe pratiquement pas, le Togolais même fait l'effort, ne serait-ce que pour créer le confort qu'il faut pour vivre un peu.
C'est-à-dire combler le vide, c'est ça.
Voilà. Donc c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui nous avons ce résultat. Sinon moi, chez moi par exemple, là où j'habite. Mais le réseau électrique que moi j'ai chez moi, c'est l'araignée. C'est sur des kilomètres. Voilà. Que j'ai tiré le fil, mais c'est à mes frais. Donc voilà, si jamais on passe chez moi, on constate que j'ai le courant, j'ai l'électricité, c'est bien évidemment qu'on va me comptabiliser dans les chiffres que vous venez de donner. Donc
voilà un peu la situation dans laquelle nous vivons. Donc, c'est là où nous interpellons l'État à faire davantage. Aujourd'hui même, je crois que la société mène une politique où on n'accepte plus connecter les gens de façon à régner. Ça ne passe plus.
Ça ne passe plus.
Alors que les gens ont besoin de l'électricité parce que la ville se développe à une échelle pas possible. Donc, voilà. Et c'est là où l'État doit multiplier les projets, les programmes pour que tout le monde puisse disposer. Et l'objectif, ce n'est pas d'arriver à 70 ou 80, c'est d'avoir les 100% de Togolais disposant d'électricité, disposant de l'eau ou d'avoir accès à un service de santé. C'est ce à quoi
ce sont des besoins primaires.
Voilà.
Tout à fait, c'est des besoins primaires.
Oui, Thierry a dit quelque chose de fondamental. Il dit, vous n'avez peut-être pas été d'accord, c'est le vocabulaire qui vous a dérangé. Il dit, au Togo, nous ne vivons pas. Vous savez, vous allez dans certains pays de la sous-région, de lundi à dimanche, les ça bouge sont... de partout.
Ah oui.
Partout. C'est ça qui fait tourner l'économie d'un pays. Il y a des hôtels reculés dans certains pays, même au Sénégal. Dans certaines localités.
Vous, Pascal, maintenant, vous ne pouvez pas se payer un week-end dans une étoile de 3 ou 4 étoiles. Vous ne pouvez pas le faire.
Il n'a pas d'argent. À moi, si vous voulez. Allez-y. C'est pour dire qu'en réalité, par exemple, regardez, dans nos hôtels, allez tous les soirs. Aller dans nos hôtels, si ça bouge, si ça vit, ça ne vit pas. Parce qu'il n'y a pas d'activité. Des gens ne viennent pas. Vous voyez, dans cet hôtel, il y a des places, par exemple, je n'ai pas de l'honneur, il y a les grands hôtels dans ce pays, vous allez les soir, mais les places VIP sont vides. Des places sont vides. Les chambres sont vides. Parce que quoi? Ça ne bouge pas. Or, vous allez peut-être à Dakar, ou dans une autre ville de Dakar, où il y a des hôtels reculés, mais ça vit de lundi à dimanche. Les activités, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il y a des pays. Moi, ce que je dis, qui sont milliardaires au Togo? Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, les milliardaires qu'il avait, il les avait tous détruits. Mais lui, il s'est construit une vague de milliardaires. Et il leur a dit, toi, tu prends tel secteur. Toi, tu prends tel secteur. Toi, tu prends tel secteur. Et c'est comme ça qu'il fait vivre la Russie. Nos milliardaires sont où? Les hôtels-là, qui les construisent? Moi, je pense que le président de la République doit mettre un accent sur ça. C'est-à-dire tous les milliardaires.
Nous, les milliardaires que nous avons, peut-être, c'est ceux qui ont détourné des fonds publics.
Alors, donc, s'il n'y a pas de milliardaires, il faut qu'on les crée. Il faut que l'État même les crée. C'est-à-dire que l'État crée des milliardaires et le confie des domaines. On te dit, toi, tu vas évoluer peut-être dans l'industrie hôtelière, on te donne de l'argent et tu vas embaucher des gens. Et au même moment, on met en place un mécanisme qui permettra à la population d'avoir un pouvoir d'achat conséquent. L'autre chose, pour conclure, vous savez, il n'y a pas d'événement au Togo. Il n'y a plus d'événement. On ne peut pas vivre sans événement au Togo. À partir de 20 heures comme ça, la plupart des coins de Lomé sont vides. Vrai ou faux? À moins que vous ayez à Limousine, ou que vous revenez à Dekon. Mais la plupart des coins sont vides. Ça ne fait pas tourner l'économie. Et l'État n'injecte pas de l'argent dans la culture suffisamment. Moi, c'est ce que je vois. L'État n'hésite pas. Ouais. Regardez, suivez les chaînes ivoiriennes une semaine, vous allez voir. Vous allez vous mettre. Les Ivoiriens, ils ont quoi? De plus que nous. Ils ont même créé le Parlement du riz. Vous savez pourquoi on a créé le Parlement du riz? C'est pour injecter de l'argent. C'est pour ressusciter
les humoristes. Et les Togolais, ils participent.
Hein. Et les Togolais, ils participent. Ouais. Il faut créer des événements comme ça. Et quand c'est l'État qui met les moyens d'abord. Et après, on cherche des partenaires. Et qu'en a plus, c'est venu. Parce que l'État a dit, non, il faut mettre de l'argent dans la culture. Ici, il y a beaucoup de choses. Tant qu'on n'aura pas d'événements, et tant qu'on n'aura pas assez de milliardaires.
Et c'est fondamental. Hein, si on occupe la jeunesse, les gens avec ces choses-là, personne ne s'intéresserait plus à la politique. C'est parce que les gens n'ont pas à manger, les gens ont faim, les gens n'ont pas du travail, que tout le monde regarde sur le président de la République ou sur le gouvernement. Si on crée les conditions et les gens vont et viennent et ils sont à l'aise, ils ont de quoi manger. Qui va parler encore de politique dans ce pays?
En Côte d'Ivoire, de lundi à vendredi, il y a des événements. Et ici, il n'y en a plus pratiquement.
D'accord. Gabin, oui, c'est vrai que d'aucuns disent que quand on parle aussi alors de ces conditions de vie, oui, il y a également notre population qui est totalement infime, c'est-à-dire la démographie, oui, c'est-à-dire quand on prend ces pays que vous venez alors de citer, Firmin a cité aussi, on voit quand même que la démographie est importante. Et est-ce que ça aussi, ça ne nous cause pas de problème, c'est-à-dire avoir une démographie importante? Puisque c'est aussi de la richesse.
Oui, c'est la démographie, c'est une richesse.
Mais vous permettez aux gens de tomber enceinte.
Mais le peu qu'on a déjà, ça ne peut pas poser un problème. Parce qu'en temps normal, on a une population de plus de 8 millions d'habitants, on tend vers les 9 millions. Normalement, on doit pouvoir profiter de ce qu'on a déjà. Est-ce que les mains d'œuvre qu'on a, la population active qu'on a, est-ce qu'on les met au travail? C'est ça le problème. Firmin a dit que bon, les milliardaires que nous avons, mais malheureusement, les milliardaires, la plupart que nous avons, ben, sont des gens qui ne se sont jamais déclarés milliardaires. À part John Doe Askaï, ben, il y a encore quel milliardaire que tu connais au Togo? Il n'y en a pas. John Doe, il est là, il crée des richesses.
John Doe n'a jamais été milliardaire. Hein?
Bon, mais son aspect. Son aspect prouve à suffisance que c'est un milliardaire. Au moins, lui, il crée des emplois. Maintenant, ceux-là qui sont là, qui par le biais de détournement, on va le dire ainsi, ont acquis des richesses. Mais ils vont montrer ça où? Est-ce qu'ils les ont déposés dans des banques? Aujourd'hui, la RAPLUCA a fait un travail et ils ont dit que bon, il y a certains qui ont accepté qu'ils ont détourné de l'argent. Ils viennent payer, hein, par à compte, comme si c'était à la FISEC. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, à un moment donné, il y a aussi l'aspect corruption qui nous joue des tours. Parce que quand des gens se permettent de détourner de l'argent et qu'on ne les punit pas publiquement pour décourager d'autres personnes, ben, les gens aussi vont le faire. Je vais détourner peut-être 3 milliards de francs. Quand on me demande, je dis bon, je vais payer par compte. Alors que en ce temps-là, j'ai encore plus d'autres ressources à ma disposition. La meilleure manière pour qu'on arrive à créer de la richesse, c'est de permettre aux populations de produire et de les accompagner. La jeunesse togolaise est très productive en idées. Les jeunes ont tellement d'idées que je ne sais pas comment on arrive à ne pas accompagner cette jeunesse-là. La moindre des choses, c'est d'arriver à les accompagner. Les jeunes produisent des idées, mais ils n'ont pas le capital nécessaire pour commencer. Tu as des idées de peut-être 20 millions pour pouvoir débuter une activité qui, peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, peuvent permettre à recruter 100 personnes, 200 personnes. Mais on ne t'accompagne pas. Au Nigeria, il y a une dame qui produit du manioc sur des hectares. Même les Togolais de Vogan, d'Afanya, ils vont pour cultiver dans les champs de cette dame-là. La dame, c'est une multimilliardaire. Elle emploie des milliers de personnes et elle crée une chaîne d'employés. Mais ici chez nous, même une simple agropole de peut-être 5 millions, de 10 millions, on n'arrive pas à accompagner les jeunes. Comment on peut arriver à s'en sortir? Ce qui fait que le plus grand rêve de la plupart des Togolais, des jeunes Togolais, ben, c'est de quitter le pays. J'ai tout fait, j'ai grué dur. C'est pourquoi moi je trouve que c'est une mauvaise politique que de déguerpir les gens qui ont mis des conteneurs autres là pour vendre. Parce que moi, je connais plusieurs étudiants qui sont sortis du campus, ils n'ont pas de boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire un petit commerce. Ces jeunes-là étaient en train de se battre quand on est venu les déguerpir. Aujourd'hui, ils vont aller où? D'autres ont fait des prêts. Moi, je connais un jeune qui vendait à Tikoumi là-bas. Il a fait un prêt de près de 6 millions dans une microfinance. Mais quand on lui a dit, monsieur, déguerpissez alors qu'il n'a pas encore fait 3 mois de vente, mais ce jeune-là, aujourd'hui, s'est retrouvé de l'autre côté du Ghana. Il est en train de faire ses activités là-bas. Il dit que, bon, il est en train de payer par compte à cette microfinance-là. Donc, voilà une tête aussi qui a quitté le pays. Alors que quand il avait érigé son magasin, il avait recruté un jeune. Le jeune-là se retrouve au chômage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va devenir? Donc, à un moment donné, permettons à la jeunesse de produire de la richesse. N'ayons pas peur que les gens soient riches. Ça, ce sont des mentalités antiques. Permettons aux jeunes de produire. Le jeune togolais est très travailleur. Mais ce que le jeune ghanéen, ivoirien, sénégalais peut faire pour gagner peut-être 100 000 ou bien 200 000, le jeune togolais peut faire le double et ne gagner que peut-être 25 000 ou bien 50 000 francs. C'est affreux pour notre économie. Donc, le peu qu'on a, on thésaurise. Si le Togolais gagne aujourd'hui 200 000 francs, peut-être il va prendre 20 000 dedans pour le mois. Il se dit, bon, 10 000 francs, c'est pour le carburant dans ma moto. Et puis les 10 000 francs, je vais manger 1 000 francs par jour.
C'est-à-dire qu'il y a des calculs qui sont
faits. Voilà, il y a des calculs. Donc, on n'est pas sûr de gagner encore 200 000 francs dans deux semaines ou bien dans un mois. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, on thésaurise ça, on garde ça à la maison. On n'a pas l'idée de produire, d'investir. Parce que quand tu investis, il n'y a pas du retour sur investissement. C'est ça le problème.
Le Togolais chérit l'argent au lieu de le dépenser. En réalité, l'argent est fait pour être dépensé.
Okay. Alors, c'est vrai que d'aucuns disent que ces situations que nous décrivons, et c'est des situations qui sont liées toujours aussi à la politique, de notre pays. Et politique, parlons-en, bien sûr, parce que on sait que déjà le 2 février prochain, bien sûr, ce serait les sénatoriales. À l'annonce alors de cette date, déjà, il y a l'opposition qui dit que non, elle ne va pas s'associer à cela. Et il y a également le journal Le Détective qui écrit ce matin par rapport à ces questions politiques. Le journal écrit « Les acteurs politiques d'opposition engagés à libérer le peuple 2025, une année décisive ». Alors, Thierry, on poserait la question de savoir mais comment cet engagement est exprimé, c'est-à-dire l'engagement de libérer le peuple, comment ça va se faire?
Ah, c'est celui qui a écrit l'article seul qui peut vous dire comment cette libération-là viendra. Maintenant, par rapport aux élections sénatoriales, je crois que la grande majorité de l'opposition ou des partis politiques de l'opposition ou encore les partis de l'opposition les plus importants ont dit niet à ces élections. Et dans une certaine mesure, on peut les comprendre parce que quand nous prenons le corps électoral de ces sénatoriales-là, c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui vont voter les sénateurs et un tiers, c'est-à-dire 20 sénateurs seront choisis ou nommés par le chef de l'État. Alors, quand nous prenons les derniers résultats des élections, que ça soit communales ou régionales, il se fait que Unir a pratiquement tout. Si Unir a pratiquement tout, dans ces conditions, si l'opposition y va, elle n'y va que pour faire de la figuration. Donc, ça se comprend le pourquoi ils disent boycotter ces élections. Et d'autres aussi disent que le Togo n'a pas besoin d'un Sénat. Sauf que le pays a fait le choix d'une décentralisation qui fait place également au Sénat. Donc tout est compliqué. Je crois que les politiques, ils ont toujours leurs petits calculs. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on puisse créer les meilleures conditions de vie possible pour permettre aux Togolais de vivre, parce que la politique, les gens sont dans la politique, il y a plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire plus. Et ils n'ont rien fait, ils n'ont rien réalisé. Ils sont là, ils ne font que parler de ça, alors qu'ils ont des familles. Et vous voyez, il faudrait qu'on puisse libérer notre pays, créer les conditions que nous puissions vivre. Je veux moi aussi demain partir en week-end. Avec un petit 200 000 ou 300 000 en poche.
C'est très important.
Et revenir. Et c'est possible parce que nous avons de la richesse dans ce pays. Le Togo, Dieu nous a tellement bénis. Nous sommes pratiquement le seul pays de la sous-région où avec 100 francs, vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Dans d'autres pays, ne pouvez pas. Ici, nous continuons pas à acheter les oranges à 50 francs ou à 100 francs. Ailleurs, si vous voulez payer des oranges, on vous le vend au prix du pesage.
Mais est-ce que c'est pas parce que notre pouvoir d'achat aussi est faible?
Ce n'est même pas ça. Ça dit que pour moi, il faut une véritable redistribution de la richesse. D'abord, il faut créer cette richesse-là. Et comme les amis l'ont dit, et c'est le secteur privé qui crée la richesse. L'État ne crée pas la richesse. L'État est là peut-être pour accompagner ou bien pour permettre à chacun d'avoir une part.
Et donc, il faudrait, et comme l'a dit Adjaro, il faut pas avoir peur hein, de susciter ou de créer des milliardaires dans notre pays. C'est comme il y a sur les réseaux sociaux, quelqu'un a écrit quelque chose pour parler de Constantin Amoso, le PDG de Seco BTP. Mais à l'époque, même s'il y a des choses qu'on peut reprocher à ce monsieur-là, quand vous allez à Seco à l'époque, c'est comme un grand marché. Il y a du mouvement pas possible. C'est comme comment on appelle ça, à Kumasi. Ça dit que il y a du mouvement, le pays bouge, ça bouge. Chacun a quelque chose à faire. Donc laissons la politique de côté, pensons construire ce pays, pensons développer ce pays. Je l'ai toujours dit, ailleurs, les gens volent aussi, mais ils construisent le pays, ils bâtissent le pays. Il faudrait qu'on puisse avoir ce sens de patriotisme-là pour développer véritablement ce pays-là. Et ce qui s'est passé la fois dernière à Agouet, on se demande, mais pourquoi ça? On donne des marchés à une entreprise et l'entreprise n'est pas sérieuse, ne fait pas bien le travail. Et malgré les remontrances, malgré les relances, l'entreprise s'en fout de tout le monde parce que elle a un soutien derrière et elle compte sur ce soutien que personne ne peut rien lui faire. Est-ce normal tout cela?
D'accord, ok. Finalement, pour ces questions alors des élections sénatoriales, finalement, est-ce que vous comprenez l'opposition dans sa position de ne pas s'associer à ces sénatoriales?
Non, je suis arrivé à comprendre la position de l'opposition. C'est une opposition qui n'a pas grande conviction politique, au fait. Ouais, c'est parce que c'est toujours les mêmes erreurs. Parce qu'on a boycotté 2002 et puis on a modifié la constitution. Yadema a pu se représenter. On a boycotté les législatives. Et puis l'opposition avait dit plus jamais de boycott dans notre pays. Parce qu'on a vu ce que 2002 nous a donné. Et en 2018, on a encore boycotté. Et aujourd'hui, on a la 5e République. Vous imaginez, vous voyez, pareil. Et puis devant cette situation, on dit on va encore boycotter. Donc, c'est-à-dire après. Quand ils boycottent et quand ils voient les résultats, les conséquences, ils disent non, c'est pas bon.
Mais est-ce que ce n'est pas dans l'ordre normal des choses? Parce que c'est cette opposition qui a refusé la 5e République. Et tout est arrimé à la 5e République. Et quand l'opposition va décider aujourd'hui d'aller ou de s'associer au sénatorial, c'est les mêmes analyses que nous faisons et nous allons dénoncer cela.
Non, regardez, mais tout est arrimé à la 5e République. Leur vie à partir du 6 mai va être toujours arrimée à la 5e République. C'est-à-dire, à partir du 6 mai, tout le monde sera aux ordres de la 5e République. Dans n'importe quelle mairie, le pays va être régi totalement, entièrement. Actuellement même, regardez toutes les décisions que nous prenons, qu'on prend officiellement. Mais ça s'inspire de la constitution du 6 mai 2024. Tout le monde, tous ceux-là qui occupent des positions officielles, nous, que ce soit au marché, partout, nous sommes dirigés, régis par la 5e République. Alors, vous dites quoi? Une chose de son contraire à la fois. C'est-à-dire, ceux-là, regardez par exemple, il y aura même les municipales en 2025. Les municipales vont être organisées sous le magistère, sous l'autorité de la 5e République. Les gens vont y aller ou non. Regardez cette histoire. En fait, il faut comprendre l'opposition. C'est qu'elle sait qu'aujourd'hui, elle a échoué. L'opposition a échoué. Elle ne peut plus rien donner. Et c'est une manière aussi, il ne faut pas l'écarter, de contribuer à l'enracinement du pouvoir. Vous avez posé une question tout à l'heure en parlant de libération. Qui veut être libéré? Est-ce que ce peuple-là veut être libéré du parti au pouvoir? Moi, je ne pense pas.
Enfin, vous avez l'impression que...
Non, regardez juste les élections, les résultats des élections. Regardez les résultats des élections. Moi, je prends même juste à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et ce peuple-là ne veut plus de Fonia Simé. Ce peuple-là ne veut plus de ce régime. Regardez les résultats que nous avons. Et de 2015 à aujourd'hui, l'opposition n'est jamais arrivée à nous prouver le contraire des résultats proclamés par la CENI, encore moins par la Cour constitutionnelle. Jamais. Est-ce que ce peuple-là, l'opposition crie, oui, le peuple est derrière nous. Mais est-ce que le peuple est derrière cette opposition? Parce que les soirs, quand vous sillonnez les bureaux de vote, mais vous dites, mais l'opposition parle de quel peuple? Qui vient voter au Togo? Dans Agouet, où il y a eu 6 sur 6. Mais qui a voté là-bas?
Et donc on parle aussi de fraude électorale.
Non, ce que nous-mêmes nous avons vu comme ça. À Lomé, moi je suis à Lomé. Je ne suis pas allé au Nord. Ce que nous-mêmes on a vu. Qui a voté? Ce sont les Ghanéens ou sont les Occidentaux? Mais ce sont pas les Togolais. Alors, c'est ce peuple-là qui veut libération. Non, je pense que c'est l'opposition même qui veut libération. Mais encore moins. Mais, ou encore que ça soit véritablement sincère. Parce que cette opposition-là, moi je vous dis, elle ne veut pas que le régime la quitte le pouvoir.
D'accord. Oui, mais Gabin.
Oui, Pascal, tu sais, Firmin vient de parler de l'échec de l'opposition. Moi je dis non. Ce n'est pas de l'échec de l'opposition, mais l'échec plutôt de tous les partis politiques du Togo, y compris le pouvoir. Si la situation est comme ça, et que le peuple arrive à se désintéresser de la politique, c'est parce qu'il n'y a pas franc jeu. Que ce soit de la part de l'opposition, que ce soit de la part du parti au pouvoir, et le parti au pouvoir a une responsabilité de plus de 90% dans cette situation. Parce que quand vous êtes au pouvoir, et que vous avez tous les leviers du pouvoir en main, il faut faciliter la tâche aux autres aussi, leur permettre de mener leurs activités. Si nous sommes dans un pays et que dans certaines zones, les partis politiques de l'opposition ne peuvent pas y aller, ça pose un problème. Quand on a l'impression qu'il y a un déséquilibre dans les campagnes politiques, dans les activités politiques, du jeu électoral, ben, on doit se questionner. Et aujourd'hui, je pense que la situation qu'on est en train de vivre, ben, c'est un piège pour le parti au pouvoir. Parce que, au moins avant, vous avez des gens en face de vous avec qui vous pouvez discuter. Quand il y a un problème, vous convoquez l'opposition à une table ronde, vous vous asseyez, vous discutez, vous trouvez des solutions. On a connu les APG et autres là. Après des situations assez critiques de notre pays.
Mais est-ce que mais aujourd'hui, puisqu'il y a le CPC, le cadre permanent de discussion qui existe.
Ben ce cadre-là, moi je dirais aujourd'hui que c'est un cadre vide. Quand ce cadre-là aujourd'hui est obligé de convoquer une ministre pour parler de la vie chère et non pas discuter des questions politiques, c'est un cadre assez vide. Et il n'y a pas le poids de l'opposition, c'est vrai. Entre-temps, la DMPI est allée. Mais est-ce que la DMP fait véritablement confiance? Ils y sont allés pour aller voir réellement ce qui s'y passe. Mais ils n'ont pas mis véritablement du cœur. Donc, si, lors des élections, avant, quand tu pars à 7 heures pour aller voter, je parle des années 98 jusqu'à 2000, quand tu pars pour voter, déjà à 7 heures, ben, la queue est tellement longue. Et même après 16 heures, 17 heures, il y a des gens qui viennent encore pour voter. Mais aujourd'hui, déjà à 10 heures, c'est fini. Ça veut dire que le peuple s'est désintéressé de la chose politique. Et quand un peuple se désintéresse des élections, ce peuple-là a des idées sordides. Aujourd'hui, on ne va pas se plaire que unir à tout. Il n'y aura pas débat à l'Assemblée. Il n'y aura pas débat au Sénat. Alors, quel est le contrepoids?
Le régime parlementaire, c'est également ce débat contradictoire.
Dans les normes, c'est un débat contradictoire. Mais quand tu vas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y aura plus de députés, une majorité criarde. Et dans les commissions, qui sont ceux-là qui président les commissions? Ce sont des partisans unis. Et quand on sait très bien que les gens dans notre pays partent véritablement pour défendre plutôt leur parti politique que le peuple, quand un député se met à dire que voilà un chef d'État qui est l'architecte du pays, qui est le guide suprême, qui a la vision éclairée, ce n'est pas la faute au chef d'État, hein, puisque le député est allé au vote. Dans les normes, ils doivent se prévaloir du mandat à lui donné par le peuple pour faire un débat digne de ce nom.
Puisqu'il est député du peuple, c'est après ce qu'il existe.
Tout mandat impératif est nul, normalement. Mais ce n'est pas ce qu'on constate dans notre République. Donc, à un moment donné, je pense que les partisans d'unir doivent eux-mêmes se questionner et se dire que si on n'a pas de contrepoint en face, ça pose problème. Notre opposition n'a pas les moyens. Notre opposition n'a pas les moyens. Et lors des dernières élections, si on sort véritablement les chiffres de ceux-là qui sont allés voter, ceux qui sont restés à la maison sont beaucoup plus nombreux. Alors, on ne peut pas dire que l'opposition n'a pas aussi des gens derrière elle. La dernière fois, on n'a pas sorti les chiffres. On n'a pas vu le nombre de ceux-là qui sont allés voter, ni le nombre que chaque parti politique a eu lors de ces dernières élections. On a juste dit, bon, voilà, tel parti a eu un député, l'autre a eu 100 et quelques députés. Ça s'est arrêté là. Mais quel est le chiffre réellement qu'on peut nous montrer, qu'on puisse savoir que bon, UNIR a eu peut-être 1 million, ANCA peut-être, oui, 800 000 ou bien 200 000, ainsi de suite. On ne l'a pas eu. Donc aujourd'hui, si les politiques se désengagent de la chose politique, des élections, on doit beaucoup se questionner.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet. J'évoquais ce sujet dans mes mots introductifs. C'est la visite alors du nouveau président du Ghana au Togo. Et il a été reçu par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, le mercredi dernier. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et au cours alors de leur entretien, c'est-à-dire des deux chefs d'État, les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets clés, parmi lesquels la coopération entre les deux pays frères et les perspectives de renforcement des relations de partenariat entre Lomé et Accra. Et les deux chefs d'État ont en outre fait un tour d'horizon de la situation politique, économique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine, ainsi que les questions alors de développement sur le continent et dans le monde. Alors, Thierry,
oui.
Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui motive le nouveau président à choisir le Togo pour son premier déplacement.
Vous savez que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et l'actuel président réélu, si je peux m'exprimer ainsi, du Ghana, se connaissent, puisque il a eu à faire un mandat et il a été déposé et il est revenu. Donc c'est de bonne guerre de venir, peut-être. Dire merci ou marquer sa disponibilité à continuer par travailler par le jeune doyen, si j'emprunte le terme d'Alassane Ouattara. C'est normal de venir voir Faure Gnassingbé pour renforcer davantage ce lien d'amitié et de coopération entre les deux pays. Vous savez, il y a encore des années, les présidents ghanéens et togolais ne pouvaient pas se parler. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, il y a eu des crispations. Et Faure Gnassingbé a l'habitude de se rendre à Accra. Et les présidents ghanéens aussi ont l'habitude de venir ici. La preuve, la dernière crise 2017-2018 que le Togo a connue, c'est un président ghanéen qui faisait les allers-retours ici pour nous aider à trouver des solutions. Donc c'est normal. Vous savez, ce qui nous a été dit, est-ce que c'est ça qui a fait véritablement l'objet des discussions? On sait aussi que quand il y a des élections comme ça, il y a des financements de gauche à droite. Peut-être que les nôtres ont contribué à la réélection du nouveau président ghanéen. Donc, il est temps de venir dire merci et peut-être profiter de l'occasion, inviter en même temps Faure Gnassingbé à son investiture. Donc, c'est tout cela.
D'accord.
On attend de voir la suite,
des
relations entre les deux pays.
D'accord, oui. Fimé, c'est vrai que Thierry a évoqué quelque chose de très important. Quand on a de telles visites, soit normalement au niveau de la présidence, on pourra organiser une conférence de presse ou un point de presse ou pour expliquer quand même ce qui s'est passé concrètement. Mais on arrive juste à écrire quelques mots pour parler. Enfin, et là, c'est des mots diplomatiques qu'on utilise souvent. Mais est-ce que aussi ce n'est pas une défaillance au niveau de la présidence?
Moi, je ne parle pas de défaillance. Mais regardez, quand on disait par exemple que le pays ne vit pas, ça aussi, ça fait partie. Ça ne bouge, personne ne bouge. Normalement, quand un chef d'État arrive comme ça, il faut qu'on mobilise la presse, il faut que la presse arrive, qu'on aille poser des questions. C'est ça fait bouger la presse. C'est ça, on veut, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, c'est comme ça que ça se referme, en fait.
Je crois que c'est au lendemain même que la presse a été, en tout cas la grande partie de la presse a été informée de la visite du Ghanéen.
Non, vous voyez, par exemple, ça, ce n'est pas une défense, mais je pense que c'est un choix, mais qui n'arrange pas trop le pays. Ce n'est pas trop bon. Mais quand il y a des visites, comme visite d'État, visite de chef d'État, mais je pense qu'il faille mobiliser toute la presse pour dire oui, ça donne une certaine image au pays, au président de la République et un certain charme à toute la visite qui est organisée. Je pense que c'est normal. Et puis l'autre chose, quand vous demandez tout à l'heure, maman qui arrive ici, vous savez, Fonia Simbo, c'est le chouchou de la communauté internationale dans la région. N'oubliez pas, il fait 20 ans, la longévité au pouvoir, c'est une question d'expérience. Et vous savez, moi j'ai exprimé mon désarroi quand j'ai vu cette photo de Fonia Singbe Donald Trump. C'est-à-dire, les gens ont affiché cette photo comme si Fonia Singbe avait tellement besoin de Donald Trump, comme si Donald Trump était le super puissant. Bien sûr, le président de la plus grande puissance du monde. Mais Fonia Singbe n'est pas un petit. Regardez, Donald Trump, il va faire encore 4 ans. Mais Fonia Singbe a travaillé avec Bush fils. Il a travaillé avec Obama. Il a travaillé avec Donald Trump lui-même. Il a travaillé avec qui? Avec Joe Biden, avec qui? Avant qu'il ne parte. Quand vous allez peut-être en France, Fonia Singbe a travaillé avec Chirac. Il a travaillé avec Sarkozy. Il a travaillé avec Hollande. Il travaille actuellement avec Macron. Macron a tellement besoin de lui dans la région ouest africaine. Fonia Singbe a tellement d'expérience à donner. C'est-à-dire, Donald Trump, qu'est-ce que Fonia Singbe? Il a juste besoin de l'appui stratégique des États-Unis. De même que les États-Unis ont besoin de l'appui stratégique du Togo. C'est une porte d'entrée dans la région ouest africaine ou dans toute l'Afrique. Quand les Israéliens ont voulu organiser leur sommet ici, on a vu tout ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, ça, le Togo devait être une porte d'entrée dans toute l'Afrique. Donc ici, la position stratégique de Fonia Singbe, mais c'est une position extraordinaire. Tout le monde a besoin de Fonia Singbe. John Mahama sait qu'il a tellement besoin de Fonia Singbe. Vous travaillez dans la région ouest africaine. Vous ne travaillez pas avec un pays comme le Togo, mais vous êtes en danger.
Qu'est-ce que le Togo représente?
Mais le Togo, c'est une porte d'entrée. Le Togo ferme peut-être son port. Le Togo ferme sa stratégie géopolitique, mais vous avez tous les problèmes du monde.
D'accord, ok. Alors, Gabin, on évoquait vraiment cette défaillance, et défaillance surtout d'information, c'est-à-dire quand même le chef de l'État voyage, c'est avec difficulté quand même qu'on a le retour de ce voyage. Quand le président de la République revient, le peuple n'est pas informé.
C'est en cela, moi je dis toujours que nous devons mettre dans nos têtes la reddition des comptes. Parce que quand tu voyages avec l'argent du peuple et tu représentes le Togo. Parce que bon, aujourd'hui quand le président de la République voyage, on dit le président togolais. Il représente le Togo, c'est les Togolais qui lui ont donné mandat d'être à ce poste-là. Donc normalement, quand il sort, c'est comme si le peuple l'a envoyé. Comme le président Alassane Ouattara le fait la plupart du temps. Avant même de partir, il réunit les journalistes et puis on lui fait une petite interview à l'entrée même à la sortie de l'aéroport. Et quand il rentre aussi, c'est la même chose qui se passe. Il faut avoir en tête que communiquer, ça fait partie des armes. Même si ce sont des termes diplomatiques, au moins vous aurez communiqué. Les gens savent que bon, au moins vous avez dit quelque chose à la presse et les gens disent que bon, aujourd'hui le président est en Chine et ainsi de suite. Parfois, il y a des problèmes au pays, c'est après on se rend compte que le président n'est pas dans le pays, le président est en Chine, le président est en Corée, ou bien c'est par les biais des réseaux sociaux qu'on se rend compte que en réalité le président n'est pas dans le pays. C'est vrai que on dit souvent qu'il n'aime pas parler, c'est un homme assez discret, mais quand on dirige un pays, il faut avoir cette capacité-là de communiquer, de parler. La plupart du temps, même si lui-même, il ne veut pas parler, il a un service de communication qui doit informer rapidement la population pour qu'on sache que aujourd'hui, notre président est dans ce pays, notre président de retour, ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Maintenant, par rapport à la visite de John Dramani Mahama, vous savez, il vient d'être élu, on l'a vu la dernière fois avec Diomaye Faye, qui a pris contact pratiquement avec tous les pays de la sous-région ouest africaine, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Il y a la lutte antiterroriste, tout est à refaire pratiquement au niveau des relations internationales. Et avant de venir ici, John Dramani Mahama était à Abuja le 16 décembre dernier. Donc, il est en train de prendre contact avec les présidents de la sous-région, surtout ces pays les plus proches là, avec qui le Ghana a des liens assez forts. C'est la première fois qu'un président ghanéen nouvellement élu vient au Togo, hein. Nana Akufo-Addo, c'est par rapport à la crise de 2017 qu'il était venu. Et il n'était pas venu, en tant que président pour rencontrer un président, mais il était venu en tant que médiateur, délégué par la CEDEAO d'ailleurs. Mais celui-ci, on connaît très bien la relation que John Jerry Rawlings avait eue avec le Togo et l'ex-président Monsieur Ignace Nguema. Donc aujourd'hui, le NDC est au pouvoir. Il est temps d'aplanir les divergences. Quand on sait très bien que ces derniers temps, le président togolais a fréquenté beaucoup le Ghana. Il est temps d'aplanir les divergences. Et donc, il est venu, à mon sens, sceller cela.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant en arrêter là. Pour ce qui concerne le débat, on reviendra et bien sûr sur ces sujets et dans l'émission de les prochaines émissions, bien sûr. Maintenant, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour leur réaction, nous donner leur avis sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. On revient juste après.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va, c'est M. Mautor.
Oui, M. Mautor. Allez-y.
Salut le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Salut à vous.
Merci.
Monsieur Gavin, je vous félicite beaucoup. Il est de quel organe? Parce que c'est l'analyse, c'est bon. Et contrairement à M. Filimé, je vais lui poser la question à M. Filimé. Est-ce qu'il a bien suivi la vie politique de 90 jusqu'à ce jour? Parce que pour moi, à chaque fois, s'il veut analyser la vie politique du Togo, c'est comme si on a été raconté, quoi. C'est comme si ce qui s'est passé au Togo jusqu'à ce jour a été raconté à M. Filimé. Parce qu'il dit que le contraire. Chaque fois, il dit que l'opposition ne veut pas le pouvoir. Dans ce pays, nous avons vu les militaires ont couru avec les unes à la télé. Lui, il n'a pas vu ça. Chaque fois, l'opposition ne veut pas la tenance au Togo. C'est sûr. Pour moi, c'est que M. Filimé est mandaté pour énerver au Togo. Quoi. Merci et bonne émission.
Allez, bonne journée à toi et merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Canal FM, pour l'électricité, vraiment, on ne comprend rien. Je suis à Démé, mais mon compteur est jusqu'à 3 km dans une maison. Je suis obligé de tirer par araignée géante jusqu'à chez moi. Les maires aussi ne font pas leur travail. Ils n'ont qu'à tracer les routes pour faciliter à piquer les poteaux. Merci, je suis Essorzinam d'Avier Démé. Allô?
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
C'est vous? Ça va aussi. C'est Monsieur Nyamava?
Non, Monsieur Kossi de Sagbadou.
Ah, c'est Monsieur Kossi de Sagbadou.
Oui, je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue. Allez-y.
Je voudrais d'abord féliciter tous les journalistes qui sont là-bas. Aujourd'hui, leurs réflexions vraiment très profondes. Nous sommes bien parlés. Sauf si même aujourd'hui, je ne le vois pas, enfin, il a bien parlé aujourd'hui quand même. Vous savez, le Togolais dit quelque chose de pas mal.
Monsieur Kossi,
oui.
On a un peu du mal à vous écouter, si vous pouvez aussi un peu la voir.
Je dis,
oui.
Que nous disons quelque chose de commun maintenant, ça ne passe pas dans le pays. Il faut que le président écoute ça et qu'il règle ce problème. C'est tout. Monsieur Filimé aussi l'a dit, ça ne va pas. Sauf si certains points, il donne aussi son opinion. Il a raison. Sur ses opinions. Mais la chose que tout le monde dit à l'unanimité aujourd'hui est que le pays ne va pas bien. Ça ne va pas. Il faut que le président fort écoute ça. Parce que si nous vivons bien dans ce pays, qui cherchera à changer ce régime et qui parlera de tel régime ou de tel régime? Quand vous gouvernez un pays, il est déjà dit que le président ne va pas bien. C'est comme vous ne gouvernez pas bien. Il faut que le président fort arrive à écouter ça et à solutionner ce problème. Les marchés, ça ne va pas. Transport, ça ne va pas. Service, ça ne va pas. Secteur privé, ça ne va pas. Comment c'est un problème pour que le pays se développe? Ça ne va pas. Tout ce que moi je dis aujourd'hui, le président fort n'a qu'à savoir que ça ne va pas.
D'accord, merci Monsieur Kossi pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, papa Sordiné.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, allez-y.
Oui. Certains de vos frères, là, c'est-à-dire, je parle de journalistes, là. Mais je crois que tout le monde est libre de donner son avis, hein.
Oui.
Mais ce qu'il dit toujours, là, ça, ça, ça fait mal à l'oreille.
Oui, mais monsieur Sordinet, papa Sordinet.
Ah oui, ok, veuillez m'excuser.
Non, en fait, nous voudrons
okay,
plutôt...
Ça va,
non, en fait, nous voudrons que vous vous exprimiez aussi et vous donner votre point de vue, c'est ça.
D'accord. Quand on dit que les Togolais se désolidarisent de l'opposition, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Puisque tout le monde sait comment ça se passe au Togo. Hein? Donc, les gens disent finalement qu'ils sont fatigués des élections, qu'ils votent, mais rien ne change. Que ça ne donne rien, les vrais visages de l'élection ne sont pas. Donc, le jour des élections, est-ce que lui-même sillonne le Togo, sillonne un peu le Togo? Donc, merci. Donc, les élections, ce n'est pas que les gens ont laissé l'opposition, mais c'est que ils en ont marre des élections. Bonne journée.
Merci, Papa Sordinet, et bonne journée chez vous. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Madame Essi, bonjour.
Je suis pour vous entrer en ligne. Bon, maintenant, là, qu'est-ce que vous voulez faire tous les autres qui défendent l'indéfendable, là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens ont été installés par De Gaulle en 63. Mais quand tu remplis, hein, mandat sur mandat, là, tu es obligé d'opprimer la population, de ruiner le pays, d'écraser tout le monde. C'est pas normal. C'est dans l'instinct humain, quoi. Comment on peut nous dire ça? Que les mêmes personnes puissent organiser les élections tous les jours, tout le temps, et puis ils font ce qu'ils veulent, ils le font en catimini, alors que les lois interdisent tout ça là. Ils n'ont qu'à donner l'élection là, à faire là. À nous, vous qui êtes là-bas là. Et puis, moi aussi, je peux en faire partie, ou à l'opposition. Hein? Il faut qu'on arrête ça. Hein? C'est pas normal, c'est pas possible. Et puis, vous avez parlé de Yakisa là. Moi, je suis à une Atlantaise, c'est-à-dire, je vais souvent à Atlanta. J'ai un portable qui est le. Comment on dit ça? C'est-à-dire que c'est Samsung qui fabrique ça là-bas. Ça s'appelle Yaz. Et c'est ça qu'on nous a amené. Est-ce que France Télécom a changé une fois? Pourquoi on nous change des trucs? Et puis, ça incombe des frais. Hein? Tout ce qu'ils ont fait là. Ils changent tous les jours, Togo Télécom, Télécel, machin. Et puis, Yaz, maintenant là, c'est des milliards sur milliards pour changer ces noms-là. On n'en a pas besoin. Pourquoi il nous fait ça? Pourquoi le président nous fait ça?
D'accord.
Il devait attendre depuis...
Merci, madame Essi. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Allez-y.
Oui, je vais aller sur la charité de la ville.
Oui, allez-y.
Puisque le journaliste Thierry a tout dit, d'autant plus qu'il était parmi les journalistes qui ont posé les questions au ministre. Le bémol, c'est qu'on dit que le gouvernement a fait beaucoup d'économies et au même moment, la vie est chère. Bon, je remercie le ministre pour ses explications. De façon basique, qu'on peut comparer le budget de l'État au salaire d'un père de famille. Cette année, le père de famille a fait des économies et pourtant les enfants n'arrivent pas à manger. C'est ça que moi je ne comprends pas. Sur le plan politique, on crie que la population a voté majoritairement le parti au pouvoir, mais il y a un certain nombre de questions à poser, comme je le dis toujours. Est-ce que la justice est aux ordres? Est-ce que les institutions de régulation sont présidées par les membres du parti au pouvoir? Merci, Canal FM.
Merci, Nestor, pour votre intervention. Et je pense que Nestor, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Je lis rapidement cette réaction de cet auditeur qui nous écrit depuis les États-Unis. On doit faire quoi pour que la société nous sorte alors les dévis? Depuis plusieurs mois, la société a promis nous contacter. Rien. La société et la TDE devront éviter ces comportements qui alimentent la corruption. Bonjour Canal FM. Alors, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Thierry?
Oui, avant d'aborder l'intervention du dernier auditeur, je reviens sur ce que Ayahua a dit par rapport au déplacement du chef de l'État. En tout cas, nous, journalistes, je crois qu'à chaque fois que le chef de l'État fait des déplacements, il y a des communiqués qui sont produits et qui sont mis à notre disposition.
Maintenant,
quitte à chacun de l'exploiter ou de ne pas l'exploiter. Maintenant, depuis un certain temps, le chef de l'État ne fait plus voyager les journalistes du privé. Je crois que il faut revoir cela. Ça permet aux confrères de vivre eux-mêmes ce déplacement, de vivre ce qui a été fait, ce qui a été dit, et je crois qu'ils font le rendu depuis là-bas ou une fois qu'ils sont de retour. Donc, il faudrait qu'on puisse renouer avec cela. Maintenant, le chef de l'État même ou son équipe, du retour de chaque voyage, comme l'a proposé Ayahua, peut organiser une conférence de presse ou bien faire une déclaration et tout résumer par rapport au déplacement, parce que les gens se disent mais pourquoi tel voyage, pourquoi tel voyage, mais nous ce ne sont pas nous qui dirigeons, nous ne savons pas le voyage qui est le plus important que l'autre. Donc ça serait intéressant si on a ce genre de communication comme c'est le cas pour le conseil des ministres où les journalistes ont la possibilité de poser des questions au ministre par rapport au sujet débattu en conseil des ministres. Alors, concernant le dernier auditeur qui parle du fait que le gouvernement a fait de l'économie, je crois, dans mon intervention, je l'ai si bien dit, oui, il y a de l'économie qui a été faite, qui a été réalisée, et le gouvernement s'est expliqué en disant que ce qui est l'excédent a été déployé dans d'autres secteurs du moment où les défis sont nombreux.
D'accord, merci Thierry. Oui, Fimé.
Moi, je vais aller, aborder, je vais aller dans le même sens que Thierry, par rapport au déplacement du chef de l'État. Normalement, le chef d'État, il se déplace avec le privé et le public. Depuis des années déjà, le déplacement du chef d'État n'est plus vivant, en fait. Par exemple, on dit, il y a même 27 avril, le président de la République avait accordé une interview à New World, un média privé. Mais écoute, dans ces déplacements, qu'on ait des journalistes privés. Et puis que le président, moi, je dis qu'il parle à la presse. Mais étant donné que le président ne l'oublie pas, hein, nous sommes dans un régime parlementaire maintenant. Chaque semaine, il devra obligatoirement se présenter devant les parlementaires pour s'expliquer sur l'état de la nation, pour s'expliquer sur les grands défis de son gouvernement. Et chaque semaine, et les parlementaires vont avoir à lui poser des questions, à moins qu'il se soustrait à cet exercice-là. Sinon, c'est ça le charme du parlementarisme, du régime parlementaire. Alors, moi, que le président de la République, depuis là-bas, qu'il fasse des conférences de presse, qu'il organise, quand il revient de son déplacement, qu'il organise des conférences de presse, qu'il rencontre des journalistes. Oh, je me dis que peut-être, il nous trouve tellement petits, parce que nous, on n'est pas des journalistes internationaux et tout ça. Et il se dit peut-être, il sera beaucoup plus à l'aise avec les journalistes de CNN ou de RFI. Non, nous aussi, nous sommes ses produits.
Mais entre-temps, au Sénégal, avec Diomaye Faye, ça a été fait même en langue locale, en
Wolof. Oui, bien sûr. S'il peut le faire en Kabyan, on sera là. Noalé. Non, d'ailleurs, à la FIA. Moi, je peux parler aussi.
Est-ce que ça suffit pour faire
Non, juste dire qu'en réalité, le président de la République, en réalité, aujourd'hui, qui souffre, surtout avec le régime parlementaire, il faut beaucoup parler.
Okay.
L'autre chose.
Rapidement. Oui, pour 30 secondes, oui.
30 secondes. Moi, je suis en train d'être toujours convaincu d'une chose. Entre ce peuple et ce pouvoir, il y a une histoire d'amour. C'est-à-dire les Togolais, de 1990 à aujourd'hui. Est-ce que les Togolais ont voulu, à un moment donné, que le régime la tombe? Je ne pense pas. Quand je parle de Togolais, je parle d'acteurs politiques, acteurs de la société civile et la couche sociale, c'est-à-dire la population.
D'accord.
Regardez l'histoire. Est-ce que les Togolais, ils veulent la suite de ce régime?
Okay.
Je ne pense pas.
Ok, d'accord. Oui, Gabin, 30 secondes.
Oui, merci Pascal pour l'invitation.
Effectivement,
puisque nous sommes dans le débat, j'aimerais dire aux éditeurs d'accepter quand même les opinions de tout et chacun, parce que nous sommes dans un débat. On veut une ouverture au niveau du débat politique, donc qu'on accepte l'opinion de quelqu'un, quitte à défendre ses propres opinions. Donc, j'aimerais demander au gouvernement de continuer pas faire des efforts pour soulager beaucoup plus le peuple togolais. D'accord. On en a besoin.
Ok, merci beaucoup Gabin. Merci d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes juriste et vous aimez toujours être avec nous et vous êtes amis de la presse aussi. Et puisque vous êtes toujours alors dans ce débat avec nous et vous apportez votre contribution pour enrichir justement ce débat. Merci d'être passé dans cette émission. Fimette Kouagbo, merci d'être passé aussi dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Thierry Afanoukoué, merci d'être passé aussi dans cette émission. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin. Et merci à vous qui nous avez appelés aussi pour votre contribution et à enrichir ce débat. Et merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end. Au revoir.